Je propose que nous lisions cet après-midi Lévitique 16. Livre du Lévitique, chapitre 16. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Lorsque s'étant approchés de l'Éternel, ils moururent. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, ton frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas. Car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint, avec un jeune taureau pour sacrifice pour le péché et un bélier pour holocauste. Il se revêtira d'une sainte tunique de lin, des caleçons de lin seront sur sa chair, il se ceintera d'une ceinture de lin, il s'enveloppera la tête d'une tiare de lin. Ce seront de saints vêtements. Il lavera sa chair dans l'eau, puis il s'en vêtira. Il prendra de l'assemblée des fils d'Israël deux boucs, et nous remarquons la précision, pour un sacrifice pour le péché. Alors qu'il y a deux aspects d'un seul sacrifice. Il prendra de l'assemblée des fils d'Israël deux boucs pour un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel, celui qui s'en va. Et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort est tombé pour l'Éternel. Il en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire propitiation sur lui pour l'envoyer au désert pour être Azazel. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même. Il fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Il égorgera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même. Puis il prendra plein un encensoir de charbon de feu de dessus l'autel qui est devant l'Éternel, l'autel des holocaustes, et plein ses paumes d'encens de drogues odoriférantes pulvérisées et les apportera au-dedans du voile. Il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, afin qu'il ne meure pas. Il prendra du sang du taureau, il en fera aspersion avec son doigt, sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera aspersion du sang avec son doigt 7 fois devant le propitiatoire. Et il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché qui est pour le peuple. Il apportera son sang au-dedans du voile et fera avec son sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 16, un autre point. Il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des fils d'Israël et leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Et personne ne sera dans la tente d'assignation quand il y entrera pour faire propitiation dans le lieu saint jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera propitiation pour lui-même et pour sa maison et pour toute la congrégation d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et fera propitiation pour lui, l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera sur lui aspersion du sang avec son doigt 7 fois. Il le purifiera et le sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. Et quand il aura achevé de faire propitiation pour le lieu saint et pour la tente d'assignation et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés. Et il les mettra sur la tête du bouc. Et on l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée, et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Et Aaron rentrera à la tente d'assignation et quittera les vêtements de lin dont il s'était vêtu quand il était entré dans le lieu saint, et les déposera là. Il lavera sa chair dans l'eau, deuxième fois, dans un lieu saint, et se revêtira de ses vêtements, donc ses vêtements sacerdotaux pour gloire et pour ornement, et il sortira. Et il offrira son holocauste, donc un bélier, et l'holocauste du peuple, deuxième bélier, et fera propitiation pour lui-même et pour le peuple. Il fera fumer sur l'autel la graisse de sacrifice pour le péché. Et celui qui aura conduit le bouc pour être Azazel lavera ses vêtements, lavera sa chair dans l'eau, après cela il entrera dans le camp. Et on transportera hors du camp le taureau de sacrifice pour le péché et le bouc de sacrifice pour le péché, desquels le sang aura été porté dans le lieu saint pour faire propitiation. Et on brûlera au feu leur peau et leur chair et leur fiente. Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, lavera sa chair dans l'eau, après cela il rentrera dans le camp. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous affligerez vos âmes, vous ne ferez aucune œuvre, tant l'Israélite de naissance que l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour-là, il sera fait propitiation pour vous afin de vous purifier. Et vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Je vais continuer jusqu'à la verset 34. Et ce sera pour vous un sabbat de repos et vous affligerez vos âmes, c'est un statut perpétuel. Le sacrificateur qui aura été oint et qui aura été consacré pour exercer la sacrificature à la place de son père fera propitiation. Il revêtira les vêtements de lin, les saints vêtements. Il fera propitiation pour le saint sanctuaire. Il fera propitiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera propitiation pour les sacrificateurs et pour le peuple de la congrégation. Ceci sera pour vous un statut perpétuel afin de faire propitiation pour les fils d'Israël, pour les purifier de tous leurs péchés une fois l'an. Et on fit comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Je lis en introduction un verset en Luc 24 pour montrer l'importance de ces scènes, de ces enseignements, de ces rites de l'Ancien Testament. Luc 24, le Seigneur marche avec les deux disciples d'Emmaüs et il leur dit au verset 25 « Aux gens sans intelligence et lents de cœur à croire, toutes les choses que les prophètes ont dites. » Croire, toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, le Pentateuch, et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qu'ils regardent. Verset 31, leurs yeux furent ouverts, ils le reconnurent, et ils dirent entre eux, 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures. Verset 45, alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, ainsi il fallait que le Christ souffre, qu'il ressuscite d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Donc ne soyons pas étonnés si nous attachons de l'importance à ces scènes de l'Ancien Testament, et en particulier ce Lévitique 16, le grand jour des propitiations. Il y a d'abord un côté prophétique sur lequel nous ne nous attarderons pas. Après Après la fête des trompettes, on reprendra ça mardi prochain, Dieu voulant. Après la fête des trompettes, qui nous parle du réveil national, le peuple se lamentera. Il ne fera aucune œuvre. Un sabbat de repos, Lévitique 16, 31, vous affligerez vos âmes. Vous affligerez vos âmes. Zacharie 12. Et puis, ce grand jour des propitiations, le septième mois, introduit alors la fête des tabernacles, c'est-à-dire la bénédiction millénaire. Donc le septième mois, le premier jour, il y avait la fête des trompettes, un réveil national. Le dixième jour, il y avait ce grand jour des propitiations, le grand pardon, le grand pardon. Et puis le quatorzième jour, alors du même mois, la fête des tabernacles. Il y a un enseignement moral et spirituel pour nous, bien sûr, que nous voulons dégager, demandant qu'en effet l'Esprit nous ouvre les Écritures pour comprendre ce que ces récits, ce que ces descriptions de l'Ancien Testament veulent nous enseigner, parlant de Christ, bien sûr. Trois ou quatre points essentiels. Premièrement, l'homme est mis de côté. Aaron ne peut pas entrer. Le chemin des lieux saints n'a pas encore été établi. Dieu reste derrière le voile. L'homme est mis de côté. Aaron doit quitter ses vêtements officiels et se revêtir de ses vêtements de lin. Deuxièmement, c'est la propitiation, définira tout ça. Troisièmement, c'est la réconciliation, la sanctification de la tente d'assignation, du lieu saint, du lieu très saint, de l'autel, des holocaustes. Et quatrièmement, c'est la substitution avec le bouc Azazel. Quatre points importants et qui nous ramènent au sujet de ce matin, ces plans de Dieu. Sans tes plans souverains, nous n'aurions pas la vie. Tout est fondé sur les plans de Dieu. Gloire lui en soit rendue, nous l'avons rendue ce matin. Et tu te fondes sur l'accomplissement de ces plans de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu qui a accompli ses plans, qui est venu pour cela. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et gloire soit rendue à celui dont ce chapitre est rempli, Christ lui-même, sous différents côtés. Propitiation, réconciliation, substitution, le tout prenant la forme de l'expiation. Revenons sur le premier point, sur lequel on ne veut pas s'arrêter longtemps. Dis à Aaron qu'il n'entre pas en tout temps. Le chemin des lieux saints, c'est l'Hébreu 9, le chemin des lieux saints n'est pas encore défini, n'est pas encore ouvert. Nous sommes dans l'Ancien Testament, et pour le côté prophétique, pour les fils d'Israël, le chemin des lieux saints n'est toujours pas ouvert. Pour les fils d'Israël, Israël lui-même, en tant que relation avec Dieu, en est à la fête de la moisson. Quand tu moissonneras, tu ne moissonneras pas le coin des champs, tu ne glaneras pas le coin des champs, tu laisseras pour le pauvre et l'affligé, c'est le temps présent. La fête des trompettes, le réveil national n'a pas encore sonné, prophétiquement, et bien sûr, ni le grand pardon, et encore moins le règne millénaire, nous le savons très bien. Donc le chemin des lieux saints n'a pas été établi. En revanche pour nous, mais on en parlera avec la sacrificature et le taureau pour Aaron et ses fils, le chemin des lieux saints est ouvert. Ayant donc un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, avec les caractères qui conviennent bien sûr. Donc Aaron en tant que tel est mis de côté, c'est-à-dire que son office de souverain sacrificateur, même si cela est rappelé au verset 32, le sacrificateur qui aura été oint, qui aura été consacré pour exercer la sacrificature à la place de son père, cet office-là est mis de côté. Et il est ramené au rang des Lévites, il est ramené au rang des sacrificateurs, et même moins que les autres sacrificateurs, parce que les sacrificateurs avaient des bonnets, avaient des tuniques, avaient une ceinture brodée. Aaron n'a rien du tout. Des vêtements de là, caleçon de là, une tiare de là, c'est tout. Donc cela nous montre premièrement que l'homme est mis de côté. Deuxièmement, qu'il n'est pas question d'office de sacrificature dans ce chapitre 16. Et que tout nous parle de sainteté. Vêtements de lin, sans aucune brodure, sans aucune floriture, sans gloire ni ornement. Le vêtement de lin qui parle de pureté, qui parle de sainteté. Et cela, afin qu'il ne meure pas. Dans notre lecture, nous l'avons trouvé deux fois cette condition, afin qu'il ne meure pas. Donc, tout parle de majesté. Et il y a de quoi. Nous reprenons verset 2. Afin qu'il ne meure pas à la fin du chapitre, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Ce propitiatoire avec les chérubins, dont les regards étaient tournés face, étaient tournés sur le couvercle, sur le dessus du propitiatoire, nous parle donc du gouvernement de Dieu, de la sainteté et de la justice de Dieu. J'apparais dans la nuée. Il semble donc que sur ce propitiatoire, il y avait une nuée particulière. Et Aaron devait effectivement entrer avec énormément de crainte. Et il prenait garde, en effet, à surtout bien faire ce que l'Éternel avait commandé à Moïse et ne rien oublier. Sainteté, majesté, droit de Dieu. Ce point-là étant acquis, l'homme mis de côté, les deux autres points sont « Tout est pour Dieu ». J'insiste, pour lui, le taureau et le bouc pour l'Éternel, le sort est tombé pour l'Éternel, et tout est de Dieu, la réconciliation d'abord et la substitution ensuite. Tout est pour Dieu, tout est de Dieu. Qui a pu répondre à ces droits-là? Qui a pu répondre à la sainteté de Dieu? Qui a pu répondre à la présence de Dieu qui apparaît dans la nuée sur le propitiatoire? Un seul. Pourquoi ? Mais parce que lui-même, non seulement était revêtu de vêtements de lin, mais il était beaucoup plus qu'Aaron qui, pour devenir semblable à l'antitype, devait laver sa chair dans l'eau, était lui-même saint, pur en lui-même, dans sa personne, et dans sa conception, et dans sa marche, et dans ses contacts avec le monde. Il n'y a point de péché en lui. Il a été conçu de l'Esprit Saint. Dans sa marche, il n'a pas connu le péché, il n'a pas commis de péché dans sa marche. Et dans ses relations avec le monde, il n'a pas été souillé par le monde, il n'a pas connu le péché. Nous avons été enseignés par les frères qui nous ont ouvert la parole, que l'enseignement le plus pratique est de diriger nos cœurs et nos âmes vers Christ. Si nos affections sont attachées à Christ, eh bien, disaient nos frères, soit par écrit, soit oralement, les pieds suivront. Les pieds suivront. De lui sont les issues de la vie. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Quel est donc notre rôle ? Si nous voulons présenter le côté pratique, attachez le cœur à Christ et répétons, les pieds suivront. Barnabas, en acte 11, était venu voir à Antioche ce qui se passait. Puis il a été vraiment émerveillé en voyant le résultat de la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu avait opéré dans cette ville-là. Alors que fait-il? Il les exhorte à rester attachés à la loi, à rester attachés aux apôtres? Non. Il les exhorte à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur. Ne vous étonnez pas si nous avons le désir profond de présenter l'Ancien Testament, je le répète, qu'a fait le Seigneur. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur a montré et enseigné toutes les choses qui le regardent. Donc ne vous étonnez pas si nous prenons l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament nous parle de Christ, et si le Seigneur l'a fait, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas, au contraire. Ou alors il faut dire au Seigneur qu'il s'est trompé. Tout est pour Dieu. Et c'est l'enseignement essentiel, essentiel. Jusqu'au verset 19. Tout est pour la majesté de Dieu. Tout est pour répondre aux exigences de sa nature, ses attributs, les attributs de sa nature, c'est-à-dire lumière-amour. Et puis, à tous les caractères qui subséquents, qui en découlent, la justice, la sainteté, la vérité, la bonté, miséricorde, eh bien, nous voyons tout cela pleinement satisfait par Christ ou en Lévitique 16. Il me semble que ça vaut la peine de s'y arrêter et de regarder ça en détail et d'essayer de comprendre selon ce que toutes les aides que nous avons écrites en particulier pour comprendre de tels chapitres. Deuxièmement, pourquoi alors la différence entre le taureau pour Aaron et ses fils et le bouc pour le peuple dont le sort est tombé pour l'Éternel ? La différence entre Aaron et ses fils qui nous parlent de l'Église, du temps présent, pas comme épouse, pas comme corps de Christ, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est pas connu, mais comme famille d'adorateurs. Aaron et ses fils représentent donc la famille d'adorateurs. Et dans le temps présent, nous sommes Aaron et ses fils, Christ et les adorateurs. Nous entrons dans le lieu saint avec le Seigneur, avec Christ, et là, nous pouvons nous tenir devant Dieu. Et où ? Dans le lieu très saint. Pourquoi ? Parce que le voile a été déchiré. Donc, le taureau est, pour le temps présent, pour nous, famille d'adorateurs, comme il était dans l'Ancien Testament pour Aaron et ses fils. Je le répète, Aaron et ses fils représentent la famille d'adorateurs, une classe spéciale. On va dire, oui, mais alors quelle est la classe spéciale maintenant ? Ben, la différence entre les chrétiens, les vrais chrétiens qui ont la vie de Dieu, bien sûr, et le monde. Et le monde. Et les vrais chrétiens, Hébreux 10, ayant donc un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, eh bien, nous nous approchons. Et nous nous approchons, et nous nous approchons pour, d'un cœur vrai, pour offrir, eh bien, ce que Dieu attend, ce que Dieu attend de nous. Et alors, eh bien, la réconciliation de toutes choses n'est pas faite. Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà déjà plusieurs fois qu'ici même, je pose la question, est-ce que vous voyez que le péché est ôté du monde ? Au contraire, il s'aggrave, en tout cas il se manifeste. Le péché reste le même, le péché reste péché, mais ce qui se monte, ce qui augmente. Les preuves du péché augmentent. L'homme devient de plus en plus mauvais jusqu'à l'Antichrist. L'homme de péché, appelé l'homme de péché, qui s'oppose à Dieu. Ouvertement. Donc, c'est ce côté, alors ça nous amène à définir les termes. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le médiateur, 1 Timothée 2, le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est offert en rançon pour tous. Pour tous. La justice de Dieu est révélée, Romains 3, envers tous. 1 Jean 2, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lui est la propitiation pour nos péchés et pour le monde entier. Donc, je cite simplement ces versets sans les chercher pour ne pas allonger. Ces versets que je viens de citer montrent bien que le premier point, que ce soit le taureau ou le bouc, alors si vous permettez maintenant, on va laisser de côté la différence entre le taureau et le bouc, sachant que Aaron faisait avec le sang du bouc comme il faisait avec le taureau. Donc nous regroupons ces deux côtés-là pour parler de la propitiation. Propitiation, c'est-à-dire deux côtés. Dans l'Ancien Testament, c'est qu'offert, c'est le propitiatoire au verset, fin du verset 2. J'apparais sur la nuée sur le propitiatoire, un peu plus loin, plusieurs fois répété jusqu'au fin du chapitre. Il fera sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc c'est qu'offert, c'est le couvrir. Lequel Dieu, Romains 3, a présenté, Jésus-Christ, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, c'est-à-dire comme couvercle. Quand on ne veut plus voir quelque chose, Ben, on y met un couvercle dessus. Et ainsi, on ne le voit plus. Le péché est couvert. Dieu ne voit plus le péché. Alors que voit-il ? Ben, le sang qui est sur le propitiatoire. Vous voyez la différence ? Au lieu de voir le péché est couvert, propitiatoire, Dieu voit le sang. Et bien sûr, il est satisfait. Parce que le sang répond à ses exigences personnelles, sa nature et ses caractères, lumière, amour et ce qui en découle. Et remarquons que le point essentiel de ce chapitre, jusqu'au verset 19, c'est, je le répète encore une fois, et peut-être je le redirai, le premier point essentiel, c'est ce qui est l'œuvre de Christ pour la satisfaction des exigences de la nature du Dieu juste, saint, lumière, amour. D'abord, pour Dieu. Que dit le Seigneur ? Je suis venu pour faire ta volonté. Que dit le Seigneur en Jean 12 ? Père, c'est pour cela que je suis venu, Père, glorifie ton nom. Eh bien, c'est la propitiation. Donc, je disais, dans l'Ancien Testament, propitiation, quoi faire ? Couvrir. Le péché est couvert. On ne le voit plus. Dans le Nouveau Testament, c'est forcément un autre mot, puisque c'est en grec. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec se rapproche davantage de l'adjectif propice. Nous avons chanté ce matin, qui vient par lui, rencontre un Dieu propice. Gardons-nous de dire que le sang de Christ rend Dieu propice. Si Dieu n'est pas propice à l'homme, qu'il fera ? Lorsque Adam a péché, qu'a fait l'Éternel ? Il a jeté hors du jardin, exigeant de sa sainteté. Mais s'est-il arrêté là ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a revêtus de vêtements de peau de bête. Dieu n'est pas propice ? Dieu a attendu le sang de Christ pour être propice ? Dieu a tant aimé le monde. Depuis quand ? Ben depuis qu'il a créé, depuis la fondation du monde. Donc ne disons pas que le sang de Christ rend Dieu propice, il l'est déjà, il l'est par nature, c'est lui qui l'a créé l'homme, il est propice à l'homme, encore faut-il que l'homme soit dans l'état nécessaire pour que Dieu puisse montrer propice. D'où nous avons chanté, qui vient par lui, par Christ, rencontre un Dieu qui peut se montrer propice. Le Seigneur le montre aussi en Luc 12, « J'ai été baptisé d'un baptême et combien je suis à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. » C'est-à-dire que la propitiation était là pour répondre aux exigences de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Christ qui, dans son efficace, je ne sais pas si j'ai terminé le verset, la citation de 1 Jean 2, lui, la propitiation pour nos péchés et pour le monde entier. Lui, la propitiation pour nos péchés, c'est la substitution, mais pour le monde entier, c'est la propitiation, c'est-à-dire que Dieu est prêt à être propice à tous ceux qui s'approchent de lui par Christ, bien sûr, parce qu'il n'y a qu'un chemin. Donc, Ancien Testament, couvrir, Nouveau Testament, propice, mais les deux sont bien sûr liés, parce que Dieu étant satisfait à l'égard du péché, je reprends ce que je viens de dire, il peut montrer ce qu'il est en lui-même, qu'un de ses caractères, propice à celui qui s'approche, à condition qu'on s'approche par lui, en Christ. La justice de Dieu envers tous, c'est la propitiation qui s'adresse à tous. Nul ne peut dire que l'œuvre de Christ n'est pas pour lui, mais sur l'application, l'action effective, tous ceux qui croient, envers tous et sur tous ceux qui croient, alors c'est la substitution. Et nous avons tout ceci en Lévitique 16. Mais d'abord, c'est la propitiation. Le péché est couvert, Dieu peut se montrer tel qu'il est propice, et d'ailleurs il est bien dit. Verset 34, « Ceci vous est comme un statut perpétuel afin de faire propitiation pour les fils d'Israël, pour les purifier de tous leurs péchés une fois l'an. » C'est-à-dire que, une fois l'an, chapitre 16, verset 19, « Il le purifiera et le sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. » Donc, une fois l'an, les exigences du Dieu étaient satisfaites et Dieu pouvait habiter au milieu d'un peuple, et il est bien dit, souillé, à cause des impuretés, verset 16. Il fera propitiation pour le lieu saint, les purifiant des impuretés des fils d'Israël et de leurs transgressions selon tous leurs péchés. Le péché étant couvert, Dieu peut habiter au milieu des peuples, malgré les impuretés des fils d'Israël, verset 16, malgré leurs transgressions, malgré tous leurs péchés. L'efficace du sang de Christ qui s'adresse, non pas qui s'applique, non pas qui est imputé à, mais qui s'adresse au monde entier. Propitiation. Ensuite, il y a la substitution, le bouc Azazel, si on en a un moment, on en parlera. C'est plus facile. Substitut, c'est celui qui prend la place d'eux. Et on voit que Aaron pose ses deux mains, c'est la seule fois d'ailleurs où c'est le sacrificateur qui pose les mains sur le sacrifice pour le péché. Et remarquons que, puisqu'on en parle, au verset 21, il confessera toutes les iniquités des fils d'Israël, toutes leurs transgressions, tous leurs péchés. On peut continuer ce côté-là, puisque je l'ai abordé, on n'y reviendra peut-être pas. Eh bien, mais là, dans ces conditions, il fallait des journées et des mois entiers. On comprend bien que c'est en figure qui nous ramène à Christ. Mes iniquités m'ont atteint. Elles dépassent en nombre. Elles dépassent en nombre les cheveux de ma tête et je ne peux pas les regarder. Il y en a un seul qui a pu confesser tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions. Aaron, bien sûr, ce qu'il fait là n'est qu'une figure de cette substitution. Le Seigneur, lui, n'en a pas oublié, n'en a oublié aucune, sinon nous serions perdus à jamais. Alors tout ceci est recouvert par un mot, le mot expiation. Bien souvent, d'ailleurs, expiation et propitiation sont utilisés l'un pour l'autre. Expiation, c'est ce qui expie, c'est le prix payé pour réparer un péché, réparer un manquement, réparer un manquement à une loi, à des règlements, au droit de Dieu. L'expiation nous parle donc de rachat, de rançon, nous parle d'un prix payé. Et cette expiation a donc ses deux côtés, l'expiation recouvre ses deux côtés. Propitiation, répondre, j'insiste pour reprendre les mêmes choses, les mêmes termes, les mêmes définitions. Le premier côté de l'expiation, c'est donc la propitiation pour satisfaire les exigences de la nature de Dieu. Et le deuxième côté, c'est la substitution. Lui, il a porté nos péchés, de ceux qui croient bien sûr, en son corps, sur le bois. C'est la substitution. Entre les deux, la réconciliation. Je disais donc que nous allons mettre ensemble le sang du taureau et le sang du bouc. D'abord, on égorge. Il est égorgé. Où ? À l'extérieur, sur l'autel d'airain. À l'autel d'airain. Mais c'est pas là. Une fois cet acte accompli, Aaron ne rentre pas avec le sang. Que fait-il ? Nous relisons. Verset 11, il égorgera le taureau. Verset 12, il prendra plein un encensoir de charbon de feu de dessous l'autel qui est devant l'Éternel. Premier point. Et plein ses paumes d'encens de drogues ou de vérandes pulvérisées. Il les apportera au-dedans du voile. Il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire, voyez bien ce côté de couvrir, de cacher, couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, l'arche, afin qu'il ne meure pas. Puisque nous sommes une famille d'adorateurs, puisque nous sommes avec Aaron, les fils d'Aaron, nous nous approchons donc pour adorer Dieu. Quel est notre souci, je dirais, notre exercice essentiel est-il d'abord de répondre aux exigences de Dieu ou bien de parler de nous ? Remarquons que pour parler de nous, il n'y a que du verset 20 à 22, il y a trois versets. Pour parler de ce qui convient à Dieu, il y en a 19. Une dizaine, moins de 10, un peu plus de 10. Que nous soyons attentifs à ce que Dieu attend de nous. Le Père en cherche de tels qu'il adore. Et qu'attend-il ? Que nous parlions de nous, de nos bénédictions, de ce que nous étions, de ce qu'il a fait pour nous, ça a sa place. Et c'est la scène en particulier, puisque la scène nous parle de la mort de Christ pour nous. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Mais Dieu attend que le Père en cherche de tel qu'il adore, en esprit, en opposition à toutes ces formes terrestres lévitiques, et en vérité, c'est-à-dire en accord avec ce qu'il est. L'adoration en esprit et en vérité. Donc l'adoration en vérité répond à la nature même de Dieu. Vous remarquez que c'est le Père qui cherche. Mais c'est Dieu qui est esprit et qui veut que l'adoration soit en esprit. Donc c'est bien la nature de Dieu. Donc notre adoration doit essentiellement et premièrement répondre à la vérité, c'est-à-dire à ce que Dieu est en lui-même. Donc les exigences de ses caractères que j'ai déjà mentionnées 5 ou 6 fois, si ce n'est pas plus. Soyons attentifs à cela. Et comment répondre aux exigences de Dieu ? Eh bien, prendre un encensoir, prendre le feu sur l'autel. Il n'y a pas de feu sur l'autel d'or. On offre l'encens sur l'autel d'or, mais il n'y a pas de feu. C'est l'autel, et les fils d'Aaron, justement, Nadab et Abihu, n'avaient pas pris le feu sur l'autel d'Holocauste, l'autel d'airain à l'extérieur. Et ils ont été châtiés immédiatement. Plus que châtiés, ils sont morts. Quelle chose, quelle sainteté de Dieu. On comprend que par deux fois il est dit afin qu'il ne meure pas. Quelle sainteté, j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Combien Aaron devait trembler, se rappelant ce qui était arrivé à ses deux fils. Eh bien, nous n'avons pas à trembler dans le sens du terme, mais que nous soyons animés de cette crainte quand nous approchons de Dieu. Il apparaît sur la nuée, sur le propitiatoire. Il est le Dieu saint. Nous nous approchons de lui en Christ. Mais Dieu ne change pas, même s'il est propice, et s'il le montre, et s'il manifeste. Alors, un encensoir, et puis, plein ses paumes. Donc, l'encensoir était accroché à son bras, ses deux paumes jointives, plein d'encens. Et il entre. Comment fait-il pour entrer ? C'est pas dire, soit il rentre par-dessous, soit il pousse avec son coude de côté, en tout cas c'était pas facile. C'était pas facile, il fallait pas qu'il se brûle à l'encensoir, il fallait pas qu'il laisse tomber l'encens qui était dans ses paumes. Il s'approche, et il voit les chérubins, il voit le propitiatoire, à la lueur simplement des charbons de feu qui étaient dans l'encensoir, puisque tout est dans l'obscurité la plus profonde, et il voit le sang. Sur le propitiatoire que lui ou son prédécesseur avait aspergé l'année précédente. Mais vite, vite, il pose l'encensoir par terre, il met l'encens sur le feu afin que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Afin qu'il ne meure pas. Donc en effet, il a bien la crainte de mourir. Ce n'est pas notre cas, bien-aimé, grâce à quel privilège nous avons, par contraste. Mais n'oublions pas l'encens. N'oublions pas l'encensoir. Et le feu qui est pris sur l'autel de l'Holocauste, l'autel des rats. Ce sont des détails, c'est suranné, c'est plus pour nous, c'est passé. Ah bon? Et pourtant, c'est ce que le Seigneur a utilisé pour se faire connaître aux disciples d'Emmaüs. Et quand il dit, notre cœur ne brûlait-il pas, ou bien aimé, si c'était, ça pouvait être notre part, quand nous entendons parler de ce que Christ est pour Dieu, de ce que Christ a fait pour répondre aux exigences du Dieu, et de ce que Christ a accompli et a souffert pour nous amener à Dieu. Alors que nous puissions dire, en lisant ces formes, ces récits, ces formes de l'Ancien Testament, aller recevoir comme un profond enseignement ce que Dieu veut nous dire, et que notre intérêt, bien sûr, il faut d'abord la comprendre, c'est clair, mais notre cœur brûle, bien-aimé, combien, voilà les exigences de Dieu. Afin que la nuée couvre de l'encens, couvre le propitiatoire. On passe au point suivant, Aaron ressort. Il prend l'encensoir froid qu'il avait laissé l'année passée. Il ressort avec l'encensoir précédent de l'année passée et il laisse devant l'arche l'encensoir brûlant avec le charbon de feu, avec l'encens dessus, cette nuée qui couvre le propitiatoire, presque la peine à respirer. Mais c'est nécessaire afin qu'il ne meure pas. Est-ce que nous voudrions nous approcher de Dieu avec nos mérites? Ou bien si nous avons pour le profond sentiment réel, intime, personnel, que nous nous approchons de Dieu chaque dimanche matin, entourés, enveloppés de la bonne odeur de Christ pour Dieu. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Alors il faut maintenant ressortir, donc voilà, il ressort, il revient avec le bassin, soit avec le sang du taureau, soit avec le sang du bouc, il fait la même chose, il fait aspersion deux fois. Alors c'est important, et là il y a toute une signification là. Premièrement, il fait aspersion une fois sur le propitiatoire, le devant du propitiatoire. Vous voyez, là où il y a le pied du micro, là, juste là devant. Une fois, c'est tout. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il avait dit pour la Pâque, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et je serai satisfait maintenant, là. Je verrai le sang et je serai satisfait. Quand est-ce que Dieu a vu le sang? Lorsque notre bien-aimé a poussé ce dernier cri, c'est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est accompli? Il ne reste plus rien à faire. S'il ne reste plus rien à faire, ça veut bien dire que Dieu est pleinement satisfait. Ça veut dire que la propitiation qui répond aux exigences de la nature de Dieu est réalisée. C'est accompli. Dieu voit le sang. C'est le sang mis sur le propitiatoire. Alors Dieu immédiatement déchire le voile. Il est satisfait, le chemin du lieu très saint est ouvert, tout change. Propitiation est faite pour tes péchés, Ésaïe 6. Mais comment pouvons-nous savoir, nous, si le sang de Christ, que Dieu a accepté le sang de Christ? Dieu a vu le sang, le Seigneur a dit, c'est accompli, il a même poussé un cri. Dieu a vu le sang et déchire le voile. Mais comment on peut savoir, nous? Il faut un témoignage. Eh bien, il y a donc en effet un témoignage. Il y a le témoignage dans la figure, dans le rite de Lévitique 16, et c'est l'aspersion cette fois par terre, devant le propitiatoire, donc c'est par terre. Et pour cela, il faut sept fois. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de certitude. Nous sommes lents de cœur à croire, nous a dit le Seigneur en Luc 24. Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire, tout ce que les prophètes ont dit. Et là, nous avons justement ce que les prophètes ont dit. Que nous puissions, par les Écritures ouvertes, comprendre ce que les prophètes ont dit. Il y a donc un témoignage pour l'homme, cette fois par terre. Et dans l'œuvre de Christ, alors où se situe ce témoignage-là? Eh bien, l'apôtre Jean le dit très bien. Nous lisons ces versets, à la fois dans l'Évangile et dans l'Épître, mais je ne veux pas trop allonger non plus, il y en a encore à voir. Alors, en Jean 19, nous lisons, verset 33, Jean 19, 33. « Étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, Et aussitôt, il en sortit du sang qu'est de l'eau. D'où le verset 35 qui répond à ce sang versé sept fois, aspergé, pardon, sept fois par terre, sur le sol. Jean 19, 35. Celui qui l'a vu rend témoignage. Et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Voilà le témoignage. Voilà le sang aspergé sept fois par terre. Il fallait que nous sachions que le sang de Christ a coulé et répond aux exigences de Dieu. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Donc il faut que nous sachions que le sang a été versé. Donc, il y a un témoignage. Jean rend témoignage. Son témoignage est vrai. Lui sait qu'il dit vrai, afin que nous aussi nous croyons. 1 Jean 5, qui reprend le même côté avec un autre point différent, mais c'est pas, on n'insiste pas. Verset 6, c'est lui, c'est Christ, le Fils de Dieu, qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Et il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit et l'eau et le sang, et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, et c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Verset 11, c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, je passe, une fois sur le propitiatoire pour répondre aux exigences du Dieu Saint, cette fois en témoignage que le sang est versé et que Dieu a accepté le sang. Nous passons au verset 16. Il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des fils d'Israël et leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Verset 18, il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, fera propitiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du bouc, vous voyez là les deux sont bien mis ensemble, et le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera sur lui aspersion du sang avec son doigt cette fois. Il le purifiera, il sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. Alors c'est le côté de la réconciliation. Nous ne pouvons utiliser les figures de l'Ancien Testament que si elles sont confirmées dans le Nouveau. Nous allons chercher dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er, et nous comprenons. Colossiens 1, verset 19. Colossiens 1, verset 19, si on veut retenir les versets, il faut quand même qu'on les lise. Et pour les retenir, Colossiens 1, verset 19, « En lui, toute la plénitude s'est plu à habiter. » C'est l'encens, la personne même de Christ. « Et la plénitude s'est plu à réconcilier toutes choses avec elle-même. » Je saute par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Et entre les deux, ayant fait la paix par le sang de sa croix, c'est la propitiation, la paix, qui vient par lui, rencontre un Dieu propice, ayant fait la paix par le sang de sa croix, c'est la propitiation, et puis la réconciliation, réconcilier les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, ceci c'est futur. C'est cette réconciliation que nous avons lu en Lévitique 16, pour la tente d'assignation, pour le lieu saint, pour l'autel, qui demeure au milieu des impuretés. Ce qui veut dire que tout ce chapitre met en opposition la souillure liée à l'homme et la sainteté qui caractérise Dieu. Donc vous voyez donc la réconciliation de toutes choses depuis le verset 16 jusqu'au verset 19. Mais cette réconciliation est future. Les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre. Ce n'est pas pour l'instant. Alors, je reprends Colossiens, j'aurais pas dû quitter la page, pour juste après, il est dit, alors, en lui toute la plénitude s'est plu à habiter, verset 19, c'est l'encens, Ayant fait la paix par le sang de sa croix, c'est la propitiation qui répond aux exigences de Dieu et qui s'adresse à tous ceux qui veulent bien le recevoir. Réconcilier toutes choses avec elle-même, les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans les cieux. Et verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort. Et on arrive alors à la substitution. Mais j'ai encore quelques minutes, je fais une remarque sur Colossiens 1 pour montrer combien la parole est précise. Et on ne s'attacherait pas aux détails ? Toute parole est inspirée de Dieu. Remarquez. Il a fait la paix par le sang de sa croix. C'est bien la propitiation. C'est le sang sur le propitiatoire, c'est le sang devant le propitiatoire. C'est le sang qui répond aux exigences de la nature même de Dieu. C'est le sang. Parce qu'on ne va pas dire que toutes les choses qui sont dans les cieux, toutes les choses qui sont sur la terre, que la tente d'assignation, que l'autel, que le lieu saint ont péché. Donc c'est. Mais ils sont souillés parce qu'ils habitent au milieu des impuretés, des transgressions, des péchés des fils d'Israël. Ce qui veut dire que cette souillure environnante, liée au manquement du peuple, souille le tabernacle. Alors, ayant fait la paix par le sang de sa croix, le sang de la propitiation. Quand il s'agit de l'homme, fin du verset 21, il vous a toutefois maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par la mort. Vous voyez la différence ? Quant à la propitiation, le sang. Quant à la substitution, le corps de sa chair par la mort. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Combien la parole est précise ? Le Seigneur n'avait pas apporté les péchés des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre, de la tente d'assignation, du lieu saint et de l'autel. Mais il fallait le sang pour purifier de la souillure. Quant au péché, alors, par le corps de sa chair, par la mort. Alors on arrive à la substitution. J'ai précisé l'assistance avec laquelle Aaron confessait et posait les deux mains. Et alors, il envoie le bouc au désert. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est-à-dire que le CHM a écrit une terre inhabitée. Ça veut dire que ce bouc avec les péchés ne sera plus jamais trouvé parce qu'il n'y a personne pour le chercher. Dans une terre inhabitée, il n'y a personne qui peut chercher et qui peut trouver le bouc. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, nous avons là encore les enseignements de la parole. Ésaïe, il ne se souviendra plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est le témoignage de l'Esprit en Hébreux 10. Il ne se souviendra plus jamais de nos péchés et de nos iniquités en Hébreux 10. Dans Jérémie, peut-être, il a mis tous nos péchés derrière son dos. Il ne se retourne pas pour les regarder. Il a mis tous nos péchés derrière son dos. Et en Michée, il les a jetés dans les profondeurs de la mer. Donc, n'essayons pas de savoir pourquoi il les a envoyés dans une terre inhabitée, ce qui veut dire que ces péchés, Dieu n'en parle plus, Dieu ne les voit plus, plus personne ne les trouvera. Il les a mis derrière son dos, il les a mis dans la profondeur de la mer, il ne s'en souviendra plus à jamais. Après l'Holocauste, après... Bon, mais je crois que ça suffit maintenant. Retenons donc déjà, si l'important c'est que, alors au verset 27, on transportera hors du camp le taureau du sacrifice pour le péché et le bouc du sacrifice pour le péché desquels le sang aura été porté dans le lieu saint pour faire propitiation. On brûlera au feu leur peau, leur chair, leur viande, tout est brûlé. Application, Hébreux 13, Christ a souffert hors de la porte. Son sang a été porté sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Alors il a souffert hors de la porte, ce qui veut dire que toutes ces images, tous ces rites, tous ces détails de l'Ancien Testament ont été pleinement accomplis par Christ. Et je termine pour dire que l'Épître aux Hébreux est essentiellement fondée sur Lévitique 16.